Bonjour, bienvenue dans notre émission Underscore. L'occasion est parfaite pour vous inviter à prendre place et à découvrir comment connecter nos ambitions dans l'univers numérique.
Bonjour Mémumam.
Bonjour Cécile, on excuse Matt car il a un petit contretemps mais il sera là avec nous la semaine prochaine.
Voilà, alors cette fois-ci effectivement nous allons vous proposer de nous embarquer dans un univers digital ou numérique plutôt. Parce que c'est vrai qu'il y a des abus de langage parfois qui me font hérisser les poils comme toi. voilà, juste le sujet sur cette semaine sera sur le Drome Digital Days que nous avons visité cette semaine. Et donc, nous allons passer tout de suite à l'actualité.
L'actu. Alors, on a appris la disparition du professeur Hawking.
Ouais.
Que dire ? Il a fait beaucoup de choses. Et il s'est exprimé aussi sur l'intelligence artificielle récemment. Il va nous manquer quand même.
RIP. Et puis, il y a aussi des anniversaires, le 10 janvier prochain.
Le 10 janvier dernier. C'était les 80 ans de Donald Knuth, qui est surtout connu de ceux qui ont fait une thèse, parce que c'est lui qui a créé Tech, et donc la Tech. Bon, ceux qui écrivent des manuscrits avec plein d'équations et tout savent que c'est la meilleure solution pour ça. Et Metafont, voilà.
Wow, il y a une campagne de financement pour ToastDR.
Oui, le site qui vous explique les conditions d'utilisation des autres sites a besoin de sous pour finir la nouvelle version de l'outil pour participer au site, donc pour contribuer. TOSDR, ça veut dire Terms of Service Didn't Read.
Oh, et puis aussi Donating.tech, un site pour donner à plusieurs assos.
Oui, ce site vous propose, par un don unique, de soutenir plusieurs projets essentiels pour un Internet libre et sécurisé, dont OpenBSD, qui maintient OpenSSH, The Internet Archive, Tor Project ou encore Let's Encrypt, qui permet d'obtenir des certificats SSL gratuitement.
Bien, et OpenStreetMap a atteint le million de contributeurs, ça y est ?
Oui, depuis le début du projet, alors qu'ils étaient déjà un million d'utilisateurs dès 2013, mais par contre, pour l'instant, tous les utilisateurs n'étaient pas contributeurs. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui... ne se contente pas de l'existant, mais contribue également.
Génial. Mais ça, c'est vraiment formidable. Mais UFC que choisir, ils sont pas un peu tardifs? Ils lancent une pétition contre Linky?
Et oui, ils sont pas contents parce que ça coûte cher. Et puis, c'est pas utile. Et puis, tout ça. Donc, si vous voulez refuser le Linky de payer pour ça, vous pouvez signer la pétition.
Waouh. Et une voiture autonome d'Uber tue un piéton, effectivement. J'ai vu ça, cette annonce, il n'y a pas longtemps.
Effectivement, il semblerait que c'est plutôt le conducteur humain qui a oublié de se réveiller ou un truc comme ça, de reprendre la main. Mais du coup, les humains, ça fait 100 ans qu'ils conduisent et il y a toujours des morts. Hein, donc
ouais.
Voilà, après la question, on en a déjà parlé.
Non, une chose est sûre, c'est qu'apparemment, il y avait quand même quelqu'un présent à bord de ce véhicule autonome. Ouais. Et même la personne qui était présente ne pouvait pas arrêter l'accident. Donc c'est vrai que là, malheureusement, voilà.
Il y a une enquête encore en cours, on verra bien. Mais...
Ça coupe effectivement
l'élan.
Justement par rapport au véhicule autonome, mais c'est vrai que, comme tu disais, ça fait longtemps que nous sommes aussi sujets à conduire et on ne compte plus le nombre d'accidents mortels qui existent malheureusement à l'encontre de piétons avec nos véhicules.
Voilà, une petite pause.
Une petite pause, Chiptune, cette fois-ci, et nous nous retrouvons tout de suite après pour le Drome Digital Days en interview.
Bye. Nous sommes avec François aujourd'hui au Drôme Digital Days, donc nous sommes à Valence avec plusieurs intervenants sur le thème des objets connectés que nous venons d'assister à une table ronde. Donc François, je vais te laisser mener l'interview des différents intervenants, je te laisse le micro.
Merci Cécile. Alors juste une petite présentation des Drôme Digital Days, c'est trois jours d'événements autour du numérique dans l'entreprise. Et donc nous sommes ici au Palais des Congrès pour cet événement. Je vais faire un petit tour et vous laisser chacun vous présenter. Et puis on va passer ensuite aux questions si vous voulez bien.
Oui, bonjour. Alors Victor Brisseau, donc je suis responsable R&D de la partie IoT donc de SNEF Lab à Valence. Donc c'est une entité en fait R&D du groupe SNEF, qui est un groupe français. Voilà, et nous développons des solutions donc IoT en ayant la particularité voilà de partir de toute la chaîne de valeur, donc de partie device vraiment capteur terrain jusqu'à la partie applicative avec la présentation et l'analyse des données récoltées.
Bonjour, donc Julien Vinet, moi je suis l'un des fondateurs de RFIT Technologies, c'est un cabinet d'informatique et de traçabilité, on est basé à Valence également, Saint-Marcel-les-Valence plus précisément, et donc nous on travaille dans le domaine de l'industrie 4.0 et dans le suivi d'actifs industriels dans le monde voilà, de l'industrie et de l'usine plus généralement.
Bonjour, Michel Croix, je suis business developer pour la société S2E. Je dis toujours qu'on est dans une société, une start-up qui a 50 ans d'âge. Ça veut dire que quelque part, on est toujours animé par un esprit d'innovation à l'intérieur de la société. Et notre savoir-faire, qui était dans la radio depuis 50 ans, on l'a orienté vers l'IoT. Donc on est constructeur de solutions IoT, quel que soit le secteur d'activité, à haute valeur ajoutée en termes de sécurité.
Bonjour, Xavier Masclot, je travaille pour l'association Moulin Digital FredgeTech et je m'occupe entre autres de l'animation d'un groupe de travail autour de depuis un an et demi sur les objets connectés dans l'industrie qui rassemble environ une soixantaine d'acteurs qui sont à la fois des offreurs de services et des utilisateurs. Et on se pose concrètement en fait, la question via des événements de ce que les objets connectés peuvent apporter dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans le BTP, etc. etc.
Alors on parle d'objets connectés, mais comment on pourrait définir assez simplement qu'est-ce que c'est un objet connecté ? Est-ce que si je mets un ordinateur dans une cafetière, c'est un objet connecté ? Connecté à quoi ? Qui veut répondre ?
Alors oui, effectivement, les définitions de l'objet connecté, il y en a beaucoup, hein, suivant les domaines un petit peu où on va se retrouver. Nous, c'est vrai qu'on axe vraiment le sujet sur la partie capteur, c'est-à-dire qu'un objet connecté, pour nous, c'est rendre un capteur communicant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, notamment dans l'industrie, mais aussi on travaille beaucoup avec les villes, il y a beaucoup d'éléments qui sont isolés, qui relèvent, ça peut être de la qualité de l'air, par exemple, dans une ville, ça peut être un capteur température sur une machine dans un domaine industriel. Aujourd'hui, dans le passé, il y avait difficulté pour rendre ce capteur communicant et pour l'instrumenter vraiment et utiliser sa valeur. Aujourd'hui, nous, grâce à justement l'IoT, ce qu'on appelle l'IoT, c'est justement un ensemble de technologies qui permet à ce capteur de le rendre communicant, alors soit directement sur l'Internet, hein, parce qu'IoT, c'est Internet of Things, l'Internet des objets, soit vraiment localement pour une entreprise, récupérer cette donnée aussi pour son usage personnel.
Alors dans notre cas, qui s'applique plutôt à la logistique, on va être confronté à des clients qui gèrent un parc de, par exemple, d'objets qui sont mouvants au sein de la France, par exemple, ou d'un pays ou d'une zone. Et la question que se posent nos clients, c'est où sont mes équipements ? Et donc nous, on va venir rajouter un tracker sur chacun de ces objets. Et puis ensuite, on va pouvoir ouvrir une carte et puis voir simplement où sont localisés chacun des objets.
Moi, Michel Croix, donc la société S2E, notre activité, c'est surtout pour le moment d'évangéliser les entreprises. Ça veut dire qu'on est conscient que toutes les entreprises doivent intégrer l'IoT. Et cet échange, cette discussion avec les entrepreneurs est très intéressante parce qu'on touche tous les secteurs d'activité, on est transverse et ça permet justement d'enrichir à la fois notre connaissance et de faire aussi participer les entrepreneurs à notre savoir-faire pour trouver des solutions qui sont pragmatiques, hein, on n'est pas dans le gadget là, et surtout trouver des solutions viables, pérennes, avec un retour sur investissement qui est relativement court parce qu'on pense que certaines activités, on peut avoir des retours d'investissement sur 1 ou 2 ans sans problème.
Alors, on a déjà eu un exemple effectivement qui a été donné. Qu'est-ce qu'il y a d'autres possibilités qu'est-ce que ça ouvre en fait comme champ les objets connectés? Lors de la table ronde, on a parlé de suivi en fait de défaillances mécaniques par exemple, donc d'anticipation des pannes.
Est-ce que c'est vraiment utile dans ce cas-là, par exemple ?
Alors effectivement, donc Julien de RFIT, pour les applications de maintenance, eh bien le fait de venir adjoindre un capteur IoT à une machine va permettre de remonter de manière périodique l'état de cette machine. On va venir la connecter à l'automate qui la pilote par exemple, et on va pouvoir récupérer des signaux comme des alarmes, des températures, des accélérations un peu étranges sur une machine mécanique qui peuvent traduire par exemple un moteur qui tourne pas rond. Et du coup, on va pouvoir anticiper les pannes, et on va plutôt agir en préventif plutôt qu'en curatif. Et bon, on sait bien que prévenir vaut mieux que guérir, et économiquement c'est toujours mieux d'intervenir avant que tout casse. Et donc ça, c'est l'un des avantages que peuvent apporter l'IoT pour les machines.
Oui, merci à Victor Brissot. SNEF, effectivement, dans l'idée, l'IoT, c'est une révolution technologique, on le dit souvent, c'est surtout parce que c'est des technologies qui sont beaucoup plus accessibles. On parle aujourd'hui de connecter des capteurs de température ou des éléments, c'est pas quelque chose qui était impossible avant. Par contre, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est possible avec des complexités et des coûts qui sont bien inférieurs par rapport à avant, et ça permet effectivement parfois de connecter des éléments du process industriel, par exemple, qui auparavant n'étaient pas du tout prioritaires et sur lesquels on laissait un petit peu de côté. Par contre, Ces technos moins chers permettent aujourd'hui de connecter des éléments qui auparavant étaient isolés et délaissés, et de mieux comprendre justement comment fonctionne son process en ayant des données beaucoup plus diverses et sur le fonctionnement des machines de manière générale.
Moi, je pense qu'on peut avoir deux volets sur l'IoT. On a le volet, je dirais, qui peut être propre à l'entreprise, justement pour faire des coûts, faire des optimisations au niveau de ses process de production. Mais aussi, on peut voir ça côté client, c'est-à-dire le fait de dire l'IoT va servir de nouvelles sources de services en termes de créativité, en termes de nouvelles possibilités d'améliorer l'offre client, alors que ce n'était pas possible avant. Donc, il ne faut pas voir l'IoT comme une contrainte. Au contraire, il faut voir ça comme à la fois une source d'innovation qui va faire pour réduire les coûts à l'intérieur de l'entreprise, qui va être transverse. Ça veut dire qu'il n'y a pas une activité à l'intérieur de l'entreprise qui ne sera pas touchée. Ça va de la logistique à la distribution, à la R&D et tout ce qui constitue une entreprise. Et aussi de pouvoir, et ça va être justement ce qui est intéressant, c'est d'amener une valeur ajoutée, encore une fois, au niveau des services. C'est-à-dire que le produit va dépasser le produit lui-même et on va être dans un packaging d'offres produits et à la fois de services.
Alors effectivement, c'est des choses qui semblent intéressantes pour l'entreprise. Après, au niveau des particuliers, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Alors du coup, ça génère plein de données. On a entendu dire, on a parlé nous dans notre émission il y a quelques temps du compteur Linky, et on a dit que le président d'Enedis présentait sa société comme une société de big data. Alors qu'au départ, il est censé transporter de l'électricité, et donc du coup, on sent bien que effectivement, il y a ça qui prend le dessus. Mais du coup, ça soulève des questions, la sécurité des données et puis la valorisation des données, c'est-à-dire que du coup, il y a des gens qui vont faire des sous avec nos données à nous, et comment on reprend la main dessus. Alors c'est des interrogations. Est-ce que c'est des peurs justifiées, plus ou moins justifiées? Est-ce que ça va se solutionner aussi avec le temps? Probablement.
Oui, vous avez raison de souligner, c'est que la donnée, c'est vraiment la nouvelle valeur. C'est-à-dire c'est l'or noir, je dirais, du troisième millénaire. Et qu'il y a deux solutions. Soit on l'exploite, c'est-à-dire le fait de dire qu'on la gère en interne et on en fait ce que l'on veut, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau process, que ce soit au niveau, je dirais, optimisation. Soit, en effet, on peut la céder. Je cite un exemple. Imaginez une collectivité qui a un réseau IoT et qui est capable justement grâce à tous ces capteurs dont elle détient au niveau de sa ville, elle est capable justement de remonter énormément d'informations. Par exemple, de voir une fréquentation, on peut voir une fréquentation sur une rue, c'est-à-dire de dire voir le taux de passage sur une rue. Ça veut dire que quelque part, cette fréquentation, on peut très bien la revendre à quelqu'un qui va valoriser cette donnée et qui va éventuellement faire un concept marketing derrière par rapport à l'occupation de cette rue. Donc on est là dans le fait de dire que la donnée n'est plus ni moins qu'une monnaie d'échange. Ça veut dire que quelque part, il y a ceux qui vont capter les données, il y a ceux qui vont les utiliser et il y a ceux qui vont les valoriser. Et il est évident que le but, quelque part, c'est de se dire où est la frontière, de se dire à un moment à qui appartient la donnée en tant que telle Et est-ce qu'on est en droit de vendre certaines données à l'insu de ceux qui ont pervu à cette donnée? C'est un débat, je dirais, sociétal. Hein, mais c'est une vraie question. La problématique, c'est que de plus en plus, le système est fait de telle façon que si vous voulez participer à l'écosystème, on vous oblige à intégrer un réseau. Donc quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous n'intégrez pas le réseau, en effet, vous serez en dehors, vous ne serez pas, je dirais, capté par cette donnée. Mais si le ticket d'entrée, c'est le fait de dire, vous vous identifiez par exemple sur votre portable en disant « j'autorise à avoir un accès Wi-Fi ». Par contre, j'autorise à avoir mon adresse, je dirais, quelque part Mac, et quelque part le fait d'identifier la typologie de mon téléphone, par exemple.
Oui, juste Victor Brissot pour ajouter qu'effectivement, c'est clairement un débat d'actualité. Effectivement, ces nouveaux usages de l'IoT permettent de connecter beaucoup, beaucoup de choses entre elles. Et par contre, effectivement, pour les utilisateurs finalement qui sont à l'origine de ces données-là, ça peut être un peu perturbant. Il faut savoir quand même que l'État français a mis en place un certain nombre de législations pour justement lutter contre ça. Donc c'est ce qu'on appelle le RGPD aujourd'hui. En gros, c'est l'idée que une entreprise est capable de collecter, on parlait d'Enedis tout à l'heure, ils sont effectivement capables de collecter des informations à usage personnel, hein, la consommation électrique d'un ménage, c'est des données personnelles qui appartiennent au ménage, mais effectivement la RGPD est là pour faire en sorte que Enedis doive anonymiser ces données, pour faire en sorte qu'effectivement eux puissent les exploiter, par contre jamais les rattacher à un ménage ou effectivement à une catégorie socio-professionnelle d'une personne. Donc ça c'est hyper important, c'est des choses justement toutes nouvelles qui sont depuis l'année 2017, cours de l'année 2017 en place, et qui vont être effectives à partir du mois prochain. Mais ça va amener effectivement un certain nombre de législations pour les utilisateurs, les usagers lambda, et il faut bien se dire que voilà, l'État fera en sorte de protéger ces données, et ça va encore évoluer dans les années à venir.
Moi, je vais partir sur aussi ce côté sécuritaire. Vous avez aussi ce problème où, effectivement, les données qui sont générées par les objets connectés dans une entreprise vont être aussi être susceptibles d'être intéressées par la concurrence, par les pays étrangers, par les gens eux-mêmes qui fabriquent les objets connectés, qui pourront aussi trouver un moyen, un portail, quelque chose pour récupérer les données qui seront issues de ça. Comment on appréhende le monde quand on sait que ton voisin pourra visuellement, facilement regarder ce que tu fais, industriellement parlant? C'est aussi stratégiquement, c'est dangereux, quoi. Quelque part, on s'amène à... On ouvre une porte, un peu une boîte de Pandore qui est... Enfin, on a dépassé le côté le chinois qui prend des photos dans un site industriel, mais là, c'est carrément Byzance, quoi. Au niveau de l'espionnage industriel, ça ouvre une porte énorme, je trouve. Comment on peut réagir par rapport à ça?
Effectivement, hein, ça pose plein de problématiques. Et d'un point de vue de sécurité, effectivement, il y a une partie technologique là derrière avec des process de sécurité qui vont venir chiffrer un petit peu les données pour éviter à la concurrence d'avoir accès facilement à ces données-là. Mais c'est clairement une des failles que peut être l'IoT aujourd'hui, en tout cas dans le démarrage qu'elle a pu avoir à son initiative au départ il y a peut-être 5 ans aujourd'hui. Effectivement, les protocoles n'étaient pas sécurisés parce qu'on connectait à l'époque, c'était vraiment le démarrage, on connectait des choses très isolées avec peu de valeur concurrentielle, etc. Aujourd'hui, comme l'IoT progresse, commence à rentrer dans l'industrie, effectivement cette partie concurrentielle devient proéminente, et à ce moment-là les protocoles justement qui sont en mutation perpétuelle s'adaptent forcément à ces problématiques-là, mais ça n'empêche pas d'avoir une stratégie qui n'est pas liée uniquement sur la technologie. Chacun doit effectivement réfléchir sur sa propre stratégie. On parlait tout à l'heure des données propriétaires. Dans une entreprise, les systèmes d'information ont des systèmes de sécurité. Et bien demain, pour l'IoT, il y aura dans l'entreprise aussi, le DSI sera formé à ces problématiques-là et saura comment protéger les données issues de son on va dire, organisme d'IoT.
Donc Julien de RFIT, moi j'ajouterais pour aller dans le sens de mes collègues que quand on conçoit un projet d'entreprise basé sur l'IoT, on n'achète pas 3 capteurs à gauche, 2 systèmes informatiques à droite et on a notre système IoT. Si le projet d'entreprise a un enjeu, on conduit normalement toutes les phases avant projet, dont une est primordiale, surtout sur ces types de projets, c'est l'analyse de la sécurité. Et donc si l'offre du marché en termes de capteurs n'est pas suffisante pour, satisfaire à la condition de sécurité dont on a besoin dans son projet IoT, eh ben on ne va pas sur ce projet IoT parce que le risque sécuritaire est trop important. Donc pour des aspects industriels, je pense que les gens savent quand même le gérer. Pour l'aspect effectivement grand public, c'est plus difficile parce que des fois, c'est nous le produit, entre guillemets, on le paye pas parce que c'est nous le produit. Et là, on est sur des choses qui sont effectivement compliquées. Je dirais que l'IoT est un nouveau pan, mais qu'on a déjà avec le téléphone, avec Facebook, avec la carte bleue. Donc voilà, on est un objet connecté d'une manière ou d'une autre, donc ça ne doit pas s'adresser différemment du reste. Voilà.
De toute façon, déjà, on connaît déjà des phénomènes de danger dans l'entreprise au niveau de la sécurité. Je citerai par exemple une porte d'entrée pour une entreprise pour hacker le système informatique. J'en citerai un, c'est la photocopieur. Le photocopieur dans l'entreprise, il est connecté. Il est connecté et on peut très très bien rentrer via votre photocopieur dans le réseau d'entreprise. Donc ça veut dire que quelque part, ça existe déjà. Hein. Bon, il est évident que il va y avoir des phénomènes de massification des portes d'entrée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un objet sur quatre, dans l'avenir, hacké sera un objet connecté. Donc ça veut dire que ça va être la faille d'entrée dans les entreprises. Après, aux entreprises, de faire des systèmes étanches qui ne mettent pas en danger la criticité au niveau de l'entreprise. C'est ça la problématique. C'est qu'à partir du moment où on sait qu'on peut avoir une entrée, c'est de pouvoir sécuriser les côtés vraiment, stratégiques de l'entreprise qui ne vont pas mettre en péril l'entreprise. Parce que c'est évident que, je citais tout à l'heure un exemple pour mettre éventuellement à sécuriser les mains, c'est-à-dire mettre un chip informatique sur le device pour sécuriser ça, c'est un coût ça. Donc ça c'est quelque chose, si vous voulez, toutes les entreprises ne vont pas le faire, c'est évident. Donc il faut évaluer le niveau de criticité que l'on veut à l'intérieur de l'entreprise, mettre des murs qui sont, je dirais, étanches. Et à partir de là, même si on est, je veux dire, à la limite hacké, on sait qu'on pourra limiter les dégâts. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui veut rentrer dans une entreprise actuellement, elle le peut. Faut pas se leurrer. Les systèmes s'améliorent, c'est évident. Mais, les failles, il y en aura toujours. Et le problème, c'est la course entre les hackers et ceux qui font les systèmes.
Et de toute façon, le plus gros problème, ça restera toujours entre la chaise et le clavier. N'est-ce pas? Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. Alors, pour ceux de nos auditeurs qui ont une entreprise et s'intéressent à la question, je pense qu'on peut les rediriger vers le Moulin Digital. Ils seront sûrement là pour vous répondre. Et puis, oui, on diffuse souvent les informations de leurs animations dans notre agenda. Et puis, pour nos auditeurs qui ont envie d'essayer de faire un objet connecté aussi avec du brick et du broc, on vous invite à venir au Hackerspace de Valence, le LOAD, où vous pourrez aussi, avec un peu d'électronique, un Arduino par exemple, faire un objet connecté pour rigoler et dans la bonne humeur. Merci à tous.
Waouh, c'était vraiment intéressant ce qui s'est passé au Drôme Digital Days. Je vous propose aussi de revenir sur notre site AAA.fr pour écouter ce podcast et pour découvrir un peu le lien vers cet événement.
Avec plein d'infos. Et puis la musique qu'on a eue juste avant, c'était V2 par Adam Dunkels, qui est aussi l'auteur de Contiki, un OS pour les nœuds de capteurs et donc pour l'IoT.
Waouh ! Passons à l'agenda.
Donc ce week-end, c'est les JDLL.
Ah ouais,
donc 24 et 25 mars, c'est la Maison pour tous, celle des Rancy, 249 rue de Vendôme à Lyon. Donc c'est les 20 ans des JDLL. Wow. Voilà.
Ouais, la one party des DUT.
Des IUT, voilà, c'est en ce moment, donc c'est trop tard pour s'inscrire, désolé. Aïe. On n'avait pas appris avant. Il y a l'exposition Compétences numériques, métier de demain, qui se passe au lycée polyvalent Algou, La Femas. Ça c'est 35 rue Barthélémy de La Femas à Valence. Ça sera lundi 26 mars où l'expo est ouverte, donc vous pouvez venir si vous êtes étudiant, professionnel ou grand public.
Et puis si vous êtes voyageur, vous avez la révision 2018 qui va se passer aussi ce week-end, la plus grosse démo partie.
C'est le week-end prochain, du 30 au 2 avril.
À
Sarrebruck en Allemagne. Par contre, il y a aussi à plus près le vendredi 30 mars de 18h à 23h59, assez tard, c'est la soirée Mario Kart au Laser Game Evolution, 99 avenue de Lyon à Bourg-lès-Valence. C'est par Gamestalgie. Coucou Gamestalgie.
Voilà. Et puis maintenant, nous allons passer à l'astrologique. Qu'as-tu vu dans ta boule de cristal ?
Otaku, tu as encore acheté un décor en bakélite. Baka.
Libriste, chiffrer son slash home, c'est pas du luxe.
C'est pas du luxe. Makounet, chez moi, ça boum. Tu es en Syrie ? Non, je suis avec Siri.
Technophile, mais pourquoi ton téléphone est-il transparent ? parce que j'ai sniffé de la coque.
Oh, oh. Hacker, j'installe toujours mes programmes inconnus chez les autres.
Nerds, je l'ai la vidéo en 700 points. Ouais, mais moi, j'ai de la place sur le HD pour la HD.
Ha ha ha.
Melbel, merci pour tes magnifiques...
astrologiques.
Voilà, nous allons vous laisser pour cette fois-ci. Vous dire à très bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Bye bye.
Bye bye.